سرت سرت کن لطفا.
اگه افتاده اصلا نمیدونستم افتاده. بیا دغدغه های ما رو.
ارزشش رو داره این کلمه؟
آره واقعا آره. خواننده میشم.
دقیقاً همین کارو کردم سر ازدواج با محمد. که چی؟ محمد آدم خوبیه.
نه این خواهر منه. جنازه جلو
میشه. خاطره ها دل تنگیه. ساده ما.
نمیخوام اینو یاد بدم به بچه ها. آرزوهاتون رو نبینین. خودتون رو نادیده بگیرین.
در سایه این پرواز نرسید.
همین میگه. انشاءالله معروف بشید.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film qui était présenté en ouverture de la 33e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, et qui s'est déroulé du 30 mars au 4 avril à Douai. Le film d'ouverture, donc intitulé Sister Tale, de Leila Amini, raconte l'histoire de Nasrin, une femme au foyer avec deux enfants, mariée à un homme traditionnaliste et souvent indisponible. Et malgré les restrictions imposées aux femmes en Iran, elle décide de poursuivre le rêve de sa vie, chanter. Pour en savoir plus, entretien avec Afsaneh Salari, productrice du film, illustré donc par la bande-annonce. Afsaneh, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu pour cette 33e édition du FIGRA présenter le film Sister Tales, donc histoire de sœurs, hein, forcément, et on suit le parcours de Nasrin, qui veut chanter, et évidemment, ça se passe en Iran, et c'est pas simple. Et puis, on suit aussi l'histoire de la famille qui a été filmée aussi par Leila Amani, donc la sœur de Nasrin. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la genèse de ce film, comment ça s'est concocté tout ça, comment ça s'est passé?
En fait, la première fois où Leila a filmé Nasrin, elle pensait pas que ça va devenir un film. Elle a juste ressenti que ça sort, elle veut changer quelque chose dans sa vie. Elle se sentait pas bien et elle était un peu dépressive. Elle venait d'accoucher son deuxième enfant, mais Leila, elle a ressenti que Nasrin, là, elle pense à ses rêves d'enfance qui étaient un rêve de chanter. Et puis, en même temps, elle est très mécontente avec sa situation actuelle. Elle a ressenti ça, elle a pris sa caméra, et comme elle a commencé à tourner, elle a compris que l'acte de filmer sa sœur devient comme une assurance pour Nasrin qu'elle n'est pas seule, qu'elle est sa sœur qui la rassure, qui la croit. Et donc, c'est pour ça qu'elle a continué à filmer au fur et à mesure, et ça lui a pris 7 ans. Jusqu'à la fin du film, qu'on voit les enfants grandir, qu'on voit que Nasrin, elle passe les différentes étapes de sa décision et sa vie. Et c'est pour ça que ça devient une tale en anglais, que c'est comme un conte qui trace un peu aussi le changement dans la famille et les enfants qui grandissent.
Alors, pour revenir aussi sur vous, hein, vous êtes productrice. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous êtes tombée justement dans cette histoire?
Je suis à la base réalisatrice moi-même. J'habite en France, mais en Iran, j'ai un collectif des films de femmes. On est des réalisatrices femmes, qu'on produit nos propres films et aussi les films des autres. À l'époque, quand Leila elle m'a contactée, c'était durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. J'étais en France. Je me sentais très, très impuissante en dehors de mon pays, quand les femmes et les hommes dans mon pays, ils étaient dans la rue manifestés. Et quand Leila elle m'a contactée, elle m'a envoyé les rushs de son film, j'ai compris que c'est le seul film sur lequel je peux travailler pendant cette période, parce que ça parle très clairement de la résistance des femmes en Iran d'une manière très intime, très cinématique et très émouvante. Donc j'ai décidé de commencer à travailler avec elle. C'était une façon de production assez alternative, assez partisane. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes, sans budget, avec des très petits budgets. Au final, on a une coproduction suisse qui a fini le film en phase de post-production. Mais tout le montage, tout ça, on l'a fait nous-mêmes. Et ça a été aussi un compte de faire ce film. Et je suis très contente parce que je vois de quelle façon la voix des femmes en Iran la voyage dans le monde entier.
Et est-ce que ce film a été vu en Iran et comment ça a été ressenti? Si vous avez des pistes là-dessus?
Non, en fait, quand on faisait le film, on savait que dans la situation actuelle, avec le gouvernement actuel, on ne peut pas montrer le film en Iran officiellement. Et c'était juste des petites projections privées. Et c'est la famille a vu le film, Mohamed a vu le film. Ça, c'est très important pour nous que les gens qui participent dans le film le voient avant que le film soit validé. Mais on attend un jour où on peut le projeter publiquement en Iran sans aucun problème et sans aucun peur.
On va revenir sur ce film, contexte familial forcément, et le rôle du père justement, Mohamed, qui au début, on a l'impression qu'il est un bon père, il est un bon père, mais en même temps, il n'est pas présent, et il y a quelque chose qui se passe.
Oui, en fait, Mohamed est un très bon père pour ses enfants, il continue à les soutenir, il continue même à soutenir Nasrin. Mais le problème, c'est que dans un mariage arrangé, quand les gens ils s'approchent sans forcément s'aimer, et c'est aussi des obligations qui les rendent de rester dans la famille, enfin de rester dans le mariage, sans trop parler, sans communiquer leurs émotions, sans dire qu'ils ne veulent pas rester. Je pense que c'est aussi un peu le cas de Mohamed. Il n'aimait pas son mariage, mais il n'osait pas le dire, et finalement c'est Nasrin qui l'a dit, et c'est Nasrin qui l'a formulé que, ok, on s'aime pas, tu n'es pas là, tu n'es pas présent, je comprends que ce mariage te suit pas, et tu me dis de manière avec ton comportement, en fait tu arrives pas, tu oses pas communiquer, mais je vois très bien que tu veux pas rester dans cette maison, tu veux pas rester avec nous. Donc c'est elle en fait qui l'a formulé, et que finalement c'était un divorce et que tous les deux étaient d'accord de le faire. Et je pense que c'est un très bon homme, et on a essayé aussi de le montrer dans le film, que c'est pas du tout quelqu'un qui aime pas sa famille, et il aime beaucoup ses enfants, il a beaucoup de respect pour Nasrin, mais en même temps, je pense qu'il était aussi coincé, lui, et par la tradition, par la force d'un mariage arrangé, et je pense qu'il était aussi beaucoup plus soulagé une fois que le divorce s'est passé.
Cette scène très forte où elle s'exprime quand elle est à l'hôpital, suite à son accouchement, elle se fait opérer pour retrouver une forme physique, on va dire, peut-être que elle voulait relancer un petit peu, mais on sent très bien que là, justement, il n'est pas présent, il ne va pas la voir à l'hôpital, etc. Et ça, c'est une scène très forte, je trouve, et c'est là où on sent la tristesse, en fait, de cette Nasrin.
Oui, c'est vrai, parce que en fait, on n'a pas dans le film, et même pendant le tournage que Leila elle a fait, on n'a pas beaucoup de scènes de disputes, parce qu'il n'y avait pas vraiment de disputes. Et en même temps, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais en même temps, je pense que c'était beaucoup plus clair de voir les moments et les situations comme ça, qui parlent beaucoup, qui parlent d'une dynamique assez triste entre ce couple, que même Nasrin, elle veut se changer. Elle change son corps, et ça, c'était une opération très douloureuse. Hein. On voit dans le film, c'est juste deux scènes, mais en réalité, ça lui a pris 2-3 mois pour guérir de toutes ses blessures. Et c'est très symbolique aussi. C'est des blessures d'un mariage sans amour, d'un homme qui n'est jamais là, qui est toujours absent. Et elle se fait opérer, c'est très violent ce qui se passe pour elle, mais je pense que cette scène parle beaucoup de dynamique entre ce couple, et ça nous aide aussi dans le montage d'arriver à ce moment de divorce. Pour nous, spectateurs, on se dit bah basta, Nasrin elle peut plus rester dans ce mariage, et même elle aime beaucoup ses enfants, elle aime beaucoup cette foyer, et elle peut plus y rester, il faut pas qu'elle reste.
Scène marquante également, cette scène où la petite Anna tombe et se blesse. Et puis, moi, j'aimerais bien parler du personnage de... Alors, j'ai oublié son prénom. Voilà. Et du coup, il porte tout sur ses épaules un petit peu quand même, ce petit gamin-là.
Ouais. En fait, ça fait... Oui, le problème, c'est qu'on est face à un... dynamique familiale qui est un peu dysfonctionnelle. Nasrin, dès le début, elle dit qu'elle se sent toute seule, qu'elle n'a pas de soutien et que le divorce, forcément, ça influence les enfants. Même si elle essaye beaucoup de les protéger, les sauver. Et Leïla, on voit comment la réalisatrice, en gardant la caméra, elle essaye aussi de protéger les enfants. À chaque moment où elle peut, on voit qu'elle prend Anna dans ses bras en tenant la caméra, qu'elle parle avec Hamid, qu'elle sort avec eux, même si elle voulait filmer la scène où Nasrin, elle chante, elle sort avec des enfants pour que Nasrin puisse chanter. Donc elle a aussi à la fois cette rôle de réalisatrice, mais aussi le rôle de Tata et la sœur de Nasrin. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas de soutien, que Nasrin, elle est seule. Et forcément, les enfants sont aussi influencés. Et aussi, c'est l'amertume de divorce, en fait, que les enfants, de toute façon, ils sont mêlés dans l'affaire des adultes. Et c'est pour ça que pour moi, cette scène, c'est important. Parce que quand Nasrin, elle divorce, elle dit que moi, je fais ça aussi pour des enfants. Parce que je veux que les enfants soient aussi en sécurité physique et mentale. Et on comprend très bien, parce qu'il y avait aussi des pressions sur les épaules de Hamid, de son fils de 8 ans à l'époque. Et que même pour lui, ça va être plus simple et plus facile de vivre, et de vivre le divorce et pas un mariage toxique.
افسانیه در تو گریست افسوس من است فرداست که نبود و La façon de filmer de Leïla, donc on est dans l'intime, c'est très inclusif en fait, et on sent quand même que la caméra a une certaine pudeur. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a des tensions, eh ben, en fait, il y a toujours une porte. Elle est toujours derrière une porte où elle ne filme pas vraiment en gros plan, etc. Ça, c'est intéressant.
Oui, je pense qu'elle a eu cette décision dès le début de tournage. Que c'est des moments très intimes, très fragiles, et qu'elle ne voulait pas forcément gêner avec la caméra. Mais aussi, nous, en tant que spectateurs, je pense qu'elle a mis la porte, elle a mis le mur pour aussi donner ce sentiment à nous qu'on n'est pas là, voyeuriste, en train de regarder les moments intimes, les moments douloureux de sa sœur et les enfants. Je pense que c'était une décision éthique qu'elle a prise, qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, sans être trop dans la scène et sans être intimidé et gêné, nous aussi, par les moments fragiles que Nasrin et ses enfants ils vivaient.
Un petit mot aussi sur le rôle de la mère, qui est un peu ambigu quand même, parce qu'au départ, elle veut soutenir sa fille, mais en même temps, elle ne comprend pas pourquoi, parce que c'est un mariage arrangé, on lui a fait comprendre à Nasrin que c'était l'homme de sa vie et que c'était l'homme idéal, et puis finalement, on se rend compte que non. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, c'est une histoire de famille, forcément, et avec la mère, c'est pas évident.
En fait, la mère, elle est quand même une maman qui a grandi ses enfants là maintenant seule, sans un mari. Et elle est une femme traditionnaliste. Et on la voit très bien, elle est voilée, elle fait la prière et tout. Et je pense que pour elle, le fait que Nasrin soit mariée à un homme bien, parce que c'est vrai qu'il est bien et qu'il a deux enfants, pour elle, c'était très douloureux qu'on ait une sorte de ce mariage, surtout qu'elle ne travaillait pas, surtout qu'elle n'avait pas de revenus elle-même. Je pense que c'était plus des inquiétudes pour la vie et la sécurité de Nasrin que le fait que le divorce était à bout ou ce genre de choses. Non, ce n'était pas ça, en fait. C'était plus pour sa sécurité, la sécurité des enfants et la situation financière. Et elle a essayé de le convaincre qu'elle ne sort pas de ce mariage, parce que c'est vrai que dans une société où les femmes ne sont pas, n'ont pas vraiment beaucoup de liberté, n'ont pas des opportunités dans la vie sociale, c'est vrai que la mère, elle peut s'inquiéter aussi pour le futur de sa fille et ses enfants. Mais une fois qu'on a vraiment pris la décision, on a aussi la scène où la mère, elle insiste qu'elle va l'accompagner au tribunal pour le divorce, parce qu'elle veut être là et elle veut la soutenir. Je pense que c'est très important de le montrer, que tout ça pour la maman, même si on n'est pas d'accord avec sa façon d'être contre cette décision de divorce, tout ça, ça vient du fait qu'elle, à sa façon, elle s'inquiète pour le futur de Nasrin. Et au final, une fois que Nasrin, elle veut vraiment le faire, elle la soutient, elle va au tribunal. Et on voit très bien dans la scène de l'anniversaire de maman que de toute façon, cette famille se réunit. Même si c'est les différences de pensée dans la génération, ils s'aiment et ils se soutiennent.
Et puis, forcément, Nasrin finit par enregistrer quand même ses propres chansons. Alors évidemment, il ne passe pas à la télé, voilà, mais par contre, ça passe à la radio. Alors est-ce que c'est s'il y a un côté aussi on doit pas voir le visage de la personne qui chante ou
non ça passe pas à la radio en fait elle enregistre elle enregistre
dans la voiture en fait quand elle écoute avec son fils
sur une clé USB
d'accord donc c'est pas la radio
elle enregistre ça et je pense que pour elle le fait de pouvoir chanter et l'enregistrer et d'avoir sa voix enregistrée pour que les gens puissent écouter déjà c'est très très important et là même si elle ne peut pas le publier publiquement même si elle ne peut pas faire de concert en ce moment parce que chanter en public c'est interdit pour les femmes et je pense que là l'acte pour elle déjà c'était un acte de résistance et d'enregistrer sa voix, l'archiver et on sait tous qu'un jour elle pourra très bien le publier donc je pense que ça ne l'a pas empêché de le faire.
Eh ben, ça m'amène à la dernière question, justement, la condition des femmes en Iran. Hein. Je l'évoquais notamment avec un couple d'artistes qui est maintenant en France et c'est pas simple, surtout culturellement. Comment ça se passe maintenant, vu le contexte politique, d'un point de vue général, votre regard là-dessus, est-ce que ça va changer ou pas ?
Et j'ai une précision, en fait, la condition des femmes n'est pas difficile culturellement, c'est difficile constitutionnellement, en base de constitution. Parce que c'est vrai qu'en Iran, la loi est en base de la loi charia, c'est la loi islamique, alors que je peux dire une majorité des familles en Iran, c'est des familles laïques qui ne croient pas à cette constitution, qui ne croient pas à cette loi. Et donc, c'est pour ça qu'en Iran, on vit une double vie, c'est la vie privée entre les familles. Les parents, les différents membres de la famille qui ne croient pas forcément à la loi de charia, à la constitution islamique, mais on a aussi une vie publique et qui fait que les femmes sont limitées. Par exemple, elles n'ont pas le droit de divorce, elles n'ont pas le droit de chanter, elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Et c'est pour ça que je veux parler des acquisitions des femmes durant le mouvement Femmes Vie Liberté qui est arrivé en 2022. Et pendant un an, les femmes se sont révoltées, se manifestaient parce qu'une femme était morte à cause de son voile. Et là, c'est vrai que c'est un combat que les femmes iraniennes mènent depuis des décennies. Ce n'est pas commencé en 2022, mais en 2022, on a eu un vrai tournant dans notre histoire contemporaine concernant le corps des femmes. Et ça a continué. Aujourd'hui, si vous allez en Iran, on voit beaucoup de femmes qui ne sont pas du tout voilées. Ça ne veut dire pas que la loi a changé, ça ne veut dire pas que le gouvernement a accepté, mais les femmes ont arrivé à pousser la force, les polices des morts, et de sortir comme elles vont, sans voile. Alors qu'il y a 5 ans, c'était impossible. Si je voyais une femme sans voile dans la rue, je disais que non, elle est folle, parce que comment elle a pu sortir sans foulard enfin, soit elle se fait arrêter, soit c'est pas normal. Alors que non, ce normal est changé. Et ça, c'est un vrai succès tangible qu'on le voit. Et c'est pour ça que cette guerre, avec cette fausse promesse ridicule d'aller libérer des femmes iraniennes, fait courir, en fait, que les femmes iraniennes, elles se combattent depuis des années, elles ont pas mal acquis des choses. C'est des femmes très, très courageuses. Malheureusement, les guerres, mais en périphérie, les combats civils, parce que la guerre, c'est par rapport à survie. D'abord, il faut survivre les bombes, il faut survivre des missiles, il faut déjà se protéger. Mais en même temps, je pense que ce combat, maintenant, c'est dans la génétique des femmes en Iran. Et elles ont retrouvé leur courage. Cette guerre va finir et ce combat va continuer.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intervention américaine, israélienne, les frappes qui sont en ce moment, la mort, évidemment, du guide suprême qui a été remplacé par son fils, mais on ne sait même pas s'il est vraiment vivant.
En fait, même si le fils du guide suprême, il n'est pas vivant, le système de la République islamique en ce moment montre que, pour l'instant, il se remplace sans problème. Le système est toujours là. Un mois est passé. Je pense que les États-Unis et Israël, ils pensaient qu'une fois que le guide suprême est tué, le système va s'effondrer tout de suite, un peu comme le Venezuela qui le remplace et basta, c'est bon, on a le pays, on a le pétrole. Mais je pense que ça vient aussi d'une sous-estimation de système politique de la République islamique, en fait, que c'est un système très, très complexe. Et c'est une idéologie qui est vraiment dans les veines et dans la génétique de ce système qui ne va pas mourir juste en prenant la tête, malheureusement, de ce système. Et c'est pour ça que ça continue, même jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne pas très bien, mais quand même, ça continue à fonctionner. Donc c'est pour ça que je pense que cette guerre, même si le rêve était vendu aux quelques communautés iraniennes, aux diasporas, que peut-être que c'est la dernière solution et qu'avec ces frappes, le système va s'effondrer et qu'après l'Iran sera libre. Et on voit très bien que non, ces frappes, ils n'amènent que des destructions. C'est un pays très grand, avec 90 millions de personnes, avec une armée assez puissante qui était construite pendant des années et des années. Et la guerre amène que la destruction, des morts, des civils. Et on voit déjà qu'une école était frappée le premier jour de la guerre, 170 étudiants ont été morts. D'ailleurs, c'est un crime de guerre qu'on n'en parle pas trop. Et les hôpitaux ont été bombardés. Et tout ça avec l'excuse qu'on bombarde l'armée iranienne. Enfin, les mensonges qu'on a déjà entendus pas mal en Palestine. C'est une guerre des mensonges. Et soit de la part des États-Unis, soit de la part de la République islamique. Et je pense que c'est juste les civils dans ce pays qui ont coincé entre ces deux forces diaboliques et qui perdent l'espoir, qui perdent l'argent, déjà une économie qui était en train de s'effondrer. Et là, on voit très bien que c'est en voie de collapse, cette économie. Et moi, je suis très, très inquiète et je pense que cette guerre doit s'arrêter aujourd'hui.
La question bonus, on est en 2026, le film a été fini en 2024, si je ne me trompe pas. Nasrin, alors, est-ce que vous avez encore des nouvelles? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle continue à chanter? Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir l'entendre un peu partout?
La bonne nouvelle, c'est que Nasrin et ses enfants, ils ont quitté l'Iran. En 2024, le film, lors de la première mondiale du film au festival de Locarno en Suisse, elle est sortie de l'Iran et elle est restée en Suisse avec ses enfants. Et pour l'instant, tout va bien. Et les enfants ont appris le français, enfin l'allemand et le français, Nasrin aussi, et il vient d'enregistrer son premier album. Oui, parce que le film est sorti en Suisse dans les salles, et il y avait beaucoup de monde qui ont vu le film, qui l'ont aimé, et elle a rencontré des compositeurs, d'autres musiciens, et je pense qu'on va l'entendre bientôt. Je pense qu'une fois que la situation en Iran se calme un peu, elle va sortir son album aussi.
Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite un bon retour. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite.
Merci beaucoup.
C'était un entretien en compagnie de Afsaneh Salari, productrice du film documentaire Sister's Tale de Leila Amini, qui était proposé en avant-première lors de l'ouverture de la 33e édition du FIGRA, Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du Documentaire de Société.